Carnet d'un inconnu, 7e fichier. 2e partie. 1. La poursuite. Je dormais profondément et sans rêve. Soudain, je sentis un poids énorme m'écraser les jambes et je m'éveillai en poussant un cri. Il faisait grand jour et un ardent soleil inondait la chambre. Sur mon lit, ou plutôt sur mes jambes, se trouvait M. Bakcheyev. Pas de doute possible, c'était bien lui. Dégageant mes jambes tant bien que mal, je m'assis dans mon lit avec l'air hébété de l'homme qui vient de se réveiller. « Et il me regarde !» cria le gros homme. « Qu'as-tu à m'examiner ainsi? Lève-toi, petit père, lève-toi! Voici une demi-heure que je suis occupé à t'éveiller. Allons, ouvre tes lucarnes !»« Qu'y a-t-il donc? Quelle heure est-il ? » « Oh, il n'est pas tard, mais notre dulciné n'a pas attendu le jour pour filer à l'anglaise. Lève-toi, nous allons courir après elle. »« Mais quelle dulciné ? » ?»« Mais notre seule dulciné, l'innocente, elle s'est sauvée avant le jour. Je ne crois venir que pour un instant, le temps de vous éveiller, mon petit père, et il faut que ça me prenne 2 heures. Levez-vous, votre oncle vous attend. En voilà une histoire !» Il parlait d'une voix irritée et malveillante. « De quoi et de qui parlez-vous » demandai-je avec impatience, mais commençant déjà à deviner ce dont il s'agissait. « Ne serait-il pas question de Tatiana Ivanovna ?»« Mais sans doute il s'agit d'elle. Je l'avais bien dit et prédit. On ne voulait pas m'entendre. Elle nous a souhaité une bonne fête. Elle est folle d'amour. L'amour lui tient toute la tête. Fis donc !» Et lui, qu'en dire avec sa barbiche? Serait-ce Mizintchikov? Le diable l'emporte! Allons, mon petit père, frotte-toi les yeux et tâche de cuver ton vin, ne fût-ce qu'en l'honneur de cette fête. Il faut croire que tu t'en es donné hier à souper pour que ce ne soit pas encore passé. Quel Mizintchikov? Il s'agit d'Obnotskin. Quant à Ivan Ivanovitch Mizintchikov, qui est un homme de bonne vie et mœurs, il se prépare à nous accompagner dans cette poursuite. « Que dites-vous » criai-je en sautant à bas de mon lit. « Est-il possible que ce soit avec Obnotskin ?»« Diable d'homme !» fit le gros-père en trépignant sur place. « Je m'adresse à lui comme à un homme instruit. Je lui fais part d'une nouvelle et il se permet d'avoir des doutes. » « Allons, mon cher, assez bavardé, nous perdons un temps précieux. Si tu veux venir avec nous, dépêche-toi d'enfiler ta culotte. » Et il sortit indigné. Tout à fait surpris, je m'habillai au plus vite et descendis en courant. Croyant que j'allais trouver mon oncle en cette maison où tout semblait dormir dans l'ignorance des événements, je gravis l'escalier avec précaution. Et sur le palier, je rencontrai Nastenka vêtue à la hâte d'une matinée. Sa chevelure était en désordre, et il était évident qu'elle venait de quitter le lit pour guetter quelqu'un. « Dites-moi, est-ce vrai que Tatiana Ivanovna est partie avec Obnotskin ? » demanda-t-elle avec précipitation. Sa voix était entrecoupée, elle était très pâle et paraissait effrayée. « On le dit. Je cherche mon oncle. Nous allons nous mettre à sa poursuite. Oh, »« Ramenez-la, ramenez-la bien vite. Si vous ne la rattrapez pas, elle est perdue. »« Mais où donc est mon oncle ? Il doit être là-bas, près des écuries où l'on attelle les chevaux à la calèche. Je l'attendais ici. Écoutez, dites-lui de ma part que je tiens absolument à partir aujourd'hui. J'y suis résolue. Mon père m'emmènera. S'il est possible, je pars à l'instant. » « Maintenant, tout est perdu, tout est mort !» Se disant, elle me regardait, éperdue, et tout à coup elle fondit en larmes. Je crus qu'elle allait avoir une attaque de nerfs. « Calmez-vous, suppliai-je, tout ira pour le mieux, vous verrez. Mais qu'avez-vous donc, Nastasia Evgravovna ?»« Je ne sais ce que j'ai, » dit-elle en me pressant inconsciemment les mains. « Dites-lui !» Mais il se fit un bruit derrière la porte. Elle abandonna mes mains et, tout apeurée, elle s'enfuit par l'escalier sans terminer sa phrase. Je retrouvai toute la bande, mon oncle, Bakcheyev et Mizintchikov, dans la cour des communs près des écuries. On avait attelé des chevaux frais à la calèche de Bakcheyev et tout était prêt pour le départ, on n'attendait plus que moi. « Le voilà !» cria mon oncle en m'apercevant. « Eh bien, mon ami, t'a-t-on dit ? » ajouta-t-il avec une singulière expression sur le visage. Il avait dans sa voix, dans son regard et dans tous ses mouvements, de l'effroi, du trouble, et aussi une lueur d'espoir. Il comprenait qu'un revirement important se produisait dans sa destinée. Je pus enfin obtenir quelques détails. À la suite d'une très mauvaise nuit, M. Bakcheyev était sorti de chez lui dès l'aurore pour se rendre à la première messe du couvent situé à 5 verstes environ de sa propriété. Comme il quittait la grande route pour prendre le chemin de traverse conduisant au monastère, il vit soudain filer au triple galop un tarantas contenant Tatiana et Obnotskine. Tout effrayée, les yeux rougis de larmes, Tatiana Ivanovna aurait poussé un cri et tendu les bras vers Bakcheyev, comme pour le supplier de prendre sa défense. C'était du moins ce qu'il prétendait. « Et lui, le lâche avec sa barbiche » ajoutait-il. « Il ne bougeait pas plus qu'un cadavre. Il se cachait. Mais compte là-dessus, mon bonhomme. Tu ne nous échapperas pas. » Sans plus de réflexion, Stéphane Alekhievitch avait repris la grande route et gagné à toute vitesse Stepanchikovo, où il avait aussitôt fait éveiller mon oncle, Mizinchikov, et moi. On s'était décidé pour la poursuite.
« Obnotskine ! Obnotskine ! » disait mon oncle, les yeux fixés sur moi, comme s'il eût voulu en même temps me faire entendre autre chose.
« Qui l'eût cru ? » « On peut s'attendre à toutes les infamies de la part de ce misérable !» cria Mizinchikov avec indignation, mais en détournant la tête pour éviter mon regard. « Eh bien, partons-nous ! Allons-nous rester là jusqu'à ce soir à raconter des sornettes ?» interrompit M. Bakcheyev en montant dans la calèche. « En route ! En route !» reprit mon oncle.
« Tout va pour le mieux, mon oncle !» lui glissai-je tout bas. « Voyez donc comme cela s'arrange !»
« Assez là-dessus, mon ami, ce serait péché de se réjouir. Ah, vois-tu, c'est maintenant qu'ils vont la chasser purement et simplement pour la punir de leur déconvenue. Je ne prévois que d'affreux malheurs. »
« Allons, Yegor Ilitch, quand vous aurez fini de chuchoter, nous partirons !» cria encore M. Bakcheyev.
« À moins que vous ne préfériez faire dételer et nous offrir une collation, qu'en pensez-vous ? Un petit verre d'eau de vie ?»
Cela fut dit d'un ton tellement furibond qu'il était impossible de ne point déférer sur le champ au désir de M. Bakcheyev. Nous montâmes séance tenante dans la calèche et les chevaux partirent au galop. Pendant quelque temps, tout le monde garda le silence. L'oncle me regardait d'un air entendu, mais ne voulait point parler devant les autres. Parfois, il s'absorbait dans ses réflexions, puis il tressaillait comme un homme qui s'éveille, et regardait autour de lui avec agitation. Mizinchikov semblait calme et fumait son cigare dans l'extrême dignité de l'honneur injustement offensé. Mais Bakcheyev s'emportait pour tout le monde. Il grognait sourdement, couvait les hommes et les choses d'un œil franchement indigné, rougissait, soufflait, crachait sans cesse de côté, et ne pouvait prendre sur lui de se tenir tranquille.
« Êtes-vous bien sûr, Stéphane Alexeïevitch, qu'il soit parti pour Mykino ?» s'enquit soudain mon oncle. Et se tournant vers moi, il ajouta « C'est à 20 verstes d'ici, mon ami, un petit village d'une 30 âmes qu'un employé en retraite du chef-lieu vient d'acheter à l'ancien propriétaire. C'est un chicanier comme on en voit peu. Du moins, on lui a fait cette réputation, peut-être injustement. » Stéphane Alexievitch assure que telle est précisément la direction prise par Obnotskine, et l'employé retraité serait son complice.
« Parbleu !» cria Bakcheyev, tout ragaillardi.
« Je vous dis que c'est à Mykino. Seulement, il est bien possible qu'il n'y soit plus, votre Obnotskine. Nous avons perdu 3 heures à bavarder. »
« Ne vous inquiétez pas, » interrompit Mizinchikov. « Nous le retrouverons. »
« Oui, c'est ça, nous le retrouverons. Mais bien sûr, en attendant, il tient sa proie et il peut courir. »«
Calme-toi, Stéphane Alexeïevitch, calme-toi. Nous les rattraperons, » dit mon oncle. Ils n'ont pas eu le temps de rien organiser, tu verras.
Pas le temps de rien organiser ? Répéta Bakcheyev d'une voix furieuse.
Oui, elle n'aura eu le temps de rien organiser avec son apparence si douce.
Elle est si douce, dit-on, si douce,
fit-il d'une voix flûtée qui voulait évidemment contrefaire quelqu'un.
Elle a eu des malheurs, mais elle nous a tourné les talons, la pauvre malheureuse. Allez donc courir après elle sur les grandes routes, dès l'aube, en tirant la langue. On n'a pas seulement eu le temps de dire convenablement ses prières à l'occasion de la belle fête. Fi donc.
Cependant, remarquai-je, ce n'est pas une enfant, elle n'est plus en tutelle. On ne peut la faire revenir si elle ne le veut pas.
Alors comment ferons-nous ?
Tu as raison, dit mon oncle, mais elle consentira, je te l'assure. Elle se laisse faire en ce moment.
Mais aussitôt qu'elle nous aura vus, elle reviendra, je t'en réponds.
Mon ami, c'est notre devoir de ne pas l'abandonner, de ne pas la sacrifier.
Elle n'est plus en tutelle,
s'écria Bakcheyev en se tournant vers moi. Mais c'est une sotte, mon petit père, une sotte accomplie, et il importe peu qu'elle ne soit pas en tutelle. Hier, je ne voulais même pas t'en parler, mais dernièrement, m'étant trompé de porte, j'entrais dans sa chambre par mégarde. Eh bien, debout devant sa glace et les poings sur les hanches, elle dansait l'écossaise. Elle était mise à ravir, comme une gravure de mode. Je ne pus que cracher et m'en aller. Et dès ce moment, j'eus le pressentiment de la chose, aussi nettement que si je l'avais lue.
Mais pourquoi la juger aussi sévèrement ? Insistai-je, non sans une certaine timidité.
Il est connu que Tatiana Ivanovna ne jouit pas d'une santé parfaite. Enfin, elle a des manies. Il me semble que le seul coupable est Obnotskine.
Elle ne jouit pas d'une santé parfaite. Allons donc,
répartit le gros homme tout rouge de colère.
Tu as juré de me faire enrager. Tu l'as juré depuis hier.
Elle est sotte, mon petit père. Je te le répète, absolument sotte. Il ne s'agit pas de savoir si elle jouit ou non d'une santé parfaite. Elle est folle de Cupidon depuis sa plus tendre enfance. Et vous voyez où Cupidon l'a conduite. Quant à l'autre, avec sa barbiche, il n'y faut même plus penser. Il galope sa troïka, drelin, 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 sonne et clochette. Et comme il doit rire avec l'argent dans sa poche.
Croyez-vous donc qu'il l'abandonnerait tout aussitôt ?
Tiens, tu te figures qu'il irait promener avec lui un pareil trésor ? Qu'est-ce qu'il en ferait ? Il la dépouillera, et puis il la laissera sous quelques buissons au bord de la route. Bonsoir la compagnie. Il ne lui restera plus que l'abri de son buisson et le parfum des fleurs.
À quoi bon t'emporter, Stéphane ? Cela n'avancera pas les affaires,
s'écria mon oncle.
Qu'as-tu à te fâcher ? Tu m'as abasourdi. Qu'est-ce que ça peut bien te faire ?
Y a-t-il un cœur dans ma poitrine, oui ou non ? J'ai beau ne lui être qu'un étranger, et cela m'irrite. C'est peut-être aussi par affection que je le dis.
Eh ! Que le diable m'emporte ! Quel besoin avais-je de revenir chez vous ? Qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Qu'est-ce que ça peut bien me faire ?
Ainsi s'agitait M. Bakcheyev. Mais je ne l'écoutais plus. Plongé que j'étais dans une profonde méditation au sujet de celle que nous poursuivions. Voici brièvement la biographie de Tatiana Ivanovna, telle que j'eus l'occasion de la recueillir par la suite d'une source certaine. Il faut la connaître pour comprendre ses aventures. Pauvre orpheline, élevée dès l'enfance dans une maison étrangère et peu hospitalière, puis jeune fille pauvre, puis demoiselle pauvre, enfin vieille fille pauvre, Tatiana Ivanovna, dans toute sa pauvre vie, avait bu jusqu'à la lie la coupe amère du chagrin, de l'isolement, de l'humiliation et des reproches. Elle connut, sans que rien ne lui en fût épargné, tout ce que le pain d'autrui apporte avec lui de rancœur. La nature l'avait douée d'un caractère enjoué, très impressionnable et léger. Dans les débuts, elle supportait tant bien que mal sa triste destinée, et trouvait encore à rire, son rire insouciant et puéril. Mais le sort en eut raison avec le temps. Peu à peu, elle pâlit, maigrit, devint irritable et d'une susceptibilité maladive, et finit par tomber en une rêverie interminable, seulement interrompue par des crises de larmes et de sanglots convulsifs. Seule l'imagination la consolait, la ravissait d'autant plus que la réalité lui apportait moins de bien tangible. Ses rêves, qui jamais ne se réalisaient, lui apparaissaient d'autant plus charmants que ses espoirs de terrestre bonheur s'évanouissaient plus complètement et sans retour. Ce n'était plus en songe, mais les yeux grands ouverts, qu'elle rêvait de richesses incalculables, d'éternelle beauté, de prétendants riches, nobles et élégants, princes ou fils de généraux, qui lui gardaient leur cœur dans une pureté virginale et expiraient à ses pieds, d'amour infini, jusqu'à ce qu'il apparût, lui, l'être d'une beauté idéale, réunissant en soi toutes les perfections, affectueux et passionné, artiste, poète, fils de général, le tout à la fois ou successivement. Sa raison faiblissait sous l'action dissolvante de cet opium de rêveries secrètes et incessantes, lorsque, tout à coup, la destinée lui joua un dernier tour. Demoiselle de compagnie chez une vieille dame aussi hargneuse qu'édentée, elle se trouvait réduite au dernier degré de l'humiliation, confinée dans le terre-à-terre le plus lugubre et le plus écœurant, accusée de toutes les infamies, à la merci des offenses du premier venu, sans personne pour la défendre, abrutie par cette vie atroce et en même temps ravie dans l'artificiel paradis de ses songes follement ardents, quand elle apprit soudain la mort d'un parent éloigné dont tous les proches avaient disparu depuis longtemps. Dans sa légèreté, elle ne s'en était jamais préoccupée. C'était un homme bizarre qui avait vécu enfermé dans un lieu lointain, solitaire, morne, craignant le bruit, s'occupant de phrénologie et d'usure. Une énorme fortune lui tombait du ciel comme par miracle et se répandait à ses pieds en longues coulées d'or. Elle était l'unique héritière de l'oublié. Cette ironie du sort l'acheva. Comment ce cerveau affaibli ne se fût-il pas aveuglément fié à ses visions, alors qu'une partie s'en vérifiait? La malheureuse y laissa sa dernière lueur de bon sens. Défaillante de félicité, elle se perdit définitivement dans le monde charmant des fantaisies insaisissables et des fantômes séducteurs. Foin des scrupules, des doutes, des barrières qu'élève la réalité et de ses lois rigoureuses et fatales. Elle avait 35 ans, rêvait de beauté éblouissante, et dans le froid de son triste automne, elle sentait derrière elle les richesses d'un coffre inépuisable. Tout cela se confondait sans lutte dans son être. Si l'un de ses rêves s'était fait vie, pourquoi pas les autres ? Pourquoi n'apparaîtrait-il pas ? Tatiana Ivanovna ne raisonnait point. Elle se contentait de croire. Et tout en attendant l'idéal, elle vit jour et nuit défiler devant elle une armée de postulants, décorés ou non, civils ou militaires, appartenant à l'armée ou à la garde, grands seigneurs ou poètes, ayant vécu à Paris ou seulement à Moscou, avec ou sans barbiche, avec ou sans royal, espagnol ou autre, mais surtout espagnol, cohue innombrable et inquiétante. Un pas de plus, et elle était mûre pour la maison de fous. Enivrée d'amour, ces jolis fantômes se serraient autour d'elle en une foule brillante, et ses créations fantasmagoriques. Elle les transportait dans la vie de chaque jour. Tout homme dont elle rencontrait le regard était amoureux d'elle. Le premier passant venu se voyait promu espagnol, et si quelqu'un mourait, c'était d'amour pour elle. Cela se confirmait à ses yeux de ce que des Obnotskin, des Mitchinchikov et tant d'autres se mirent à la courtiser, et tous dans le même but. On l'entourait de petits soins, on s'efforçait de lui plaire, de la flatter. La pauvre Tatiana ne voulut même pas soupçonner que toutes ces manœuvres n'avaient pas d'autre objectif que son argent. Convaincue que, par ordre supérieur, les hommes, corrigés, étaient devenus gais, aimables, charmants et bons. Il ne paraissait pas encore, mais sans nul doute, il allait bientôt paraître. Et la vie était fort supportable, si attrayante, si pleine d'amusements et de délices, que l'on pouvait bien patienter. Elle mangeait des bonbons, cueillait des fleurs, recherchait les plaisirs et lisait des romans. Mais la lecture surexcitait son imagination, et elle abandonnait le livre dès la seconde page, s'envolant dans ses rêveries à la plus légère allusion amoureuse, à la description d'une toilette, d'une localité, d'une pièce. Sans cesse, elle faisait venir de nouvelles parures, des dentelles, des chapeaux, des coiffures, des rubans, des échantillons, des patrons, des dessins de broderie, des bonbons, des fleurs, des petits chiens. Trois femmes de chambre passaient leur journée à coudre dans la lingerie. Et la demoiselle ne cessait d'essayer ses corsages et ses falbalas. Et du matin jusqu'au soir, parfois même la nuit, elle restait à se tourner devant sa glace. Depuis sa subite fortune, elle avait rajeuni et embelli. Je ne me rappelle pas quel lointain degré de parenté l'unissait à feu le général Krakoktine, et fut toujours persuadée que cette consanguinité n'avait jamais existé que dans l'imagination inventive de la générale, désireuse d'accaparer la riche Tatiana et de la marier au colonel de gré ou de force. M. Bakcheyev avait raison de dire que Cupidon avait brouillé la tête à Tatiana, et l'oncle était fort raisonnable de la poursuivre et de la ramener, fût-ce malgré elle. Elle n'eût pu vivre sans tutelle, la pauvrette. Elle eût péri, à moins qu'elle ne fût devenue la proie de quelque coquin. Nous arrivâmes à Mykino vers 10 heures. C'était un misérable trou de village à environ 3 verstes de la grande route. Si sous cette cabane de paysans, enfumée, à peine couverte de chaume, y regardait le passant d'un air morne et assez peu hospitalier. On ne voyait pas un jardin, pas un buisson à un quart de verste à la ronde. Un vieux sitis endormi laissait piteusement pendre ses branches au-dessus d'une mare verdâtre qu'on appelait l'étang. Quelle fâcheuse impression ne devait pas produire un tel lieu d'habitation sur Tatiana Ivanovna! Triste mise en ménage! La maison du maître était nouvellement construite en bois, étroite, longue, percée de 6 fenêtres alignées et hâtivement couverte de chaume, car l'employé propriétaire était en train de s'installer. La cour n'était pas encore complètement entourée, et l'on voyait, sur un seul côté, une barrière de branchages de noyers entrelacés, dont les feuilles desséchées n'avaient pas eu le temps de tomber. Le long de cette haie était rangé le tarantas d'Obnotskin. Nous tombions tout à fait inopinément sur les coupables, et par une fenêtre ouverte, on entendait des cris et des pleurs. Nous entrâmes dans le vestibule, d'où un gamin nu-pied s'enfuit à notre aspect. Nous passâmes dans la première pièce. Sur un long divan turc, recouvert de perse, Tatiana était assise, tout éplorée. En nous voyant, elle poussa un cri et se couvrit le visage de ses mains. Près d'elle siégeait Obnotskin, effrayé et confus à faire pitié. Il était à ce point troublé qu'il se précipita pour nous serrer les mains comme s'il eût été grandement réjoui de notre arrivée. Par la porte ouverte qui donnait dans la pièce suivante, on pouvait apercevoir un pan de robe. Quelqu'un nous guettait et écoutait par une imperceptible fente. Les habitants de la maison ne se montrèrent pas. Il semblait qu'ils fussent absents. Ils s'étaient tous cachés. La voilà, la voyageuse! Elle se cache la figure dans les mains! Cria Bakcheyev en pénétrant à notre suite. Calmez vos transports, Stepan Alexievitch, c'est indécent à la fin. Seul ici, Yegor Ilitch a le droit de parler. Nous autres, nous ne sommes que des étrangers, fit Mitzinchikov d'un ton acerbe. Mon oncle jeta sur M. Bakcheyev un regard sévère. Puis, feignant de ne pas s'apercevoir de la présence d'Obnotskine, qui lui tendait la main, il s'approcha de Tatiana Ivanovna, dont la figure restait toujours cachée, et, de sa voix la plus douce, avec le plus sincère intérêt, il lui dit « Tatiana Ivanovna, nous avons pour vous tant d'affection et tant d'estime que nous avons voulu venir nous-mêmes afin de connaître vos intentions. Voulez-vous rentrer avec nous à Stepanchikovo? C'est la fête d'Ilucha. Ma mère vous attend avec impatience, et Sacha et Nastia ont dû bien vous pleurer toute la matinée. » Tatiana Ivanovna releva timidement la tête, le regarda au travers de ses doigts, et soudain, fondant en larmes, elle se jeta à son cou. « Ah, emmenez-moi, emmenez-moi vite » criait-elle à travers ses sanglots. « Oh, plus vite !» Elle a fait une sottise et elle le regrette à présent, siffla Bakcheyev en me poussant. « Alors, l'affaire est terminée, » dit sèchement mon oncle à Obnotskine sans presque le regarder. « Tatiana Ivanovna, votre main, et partons. » Il se fit un froufrou derrière la porte qui grinça et s'ouvrit un peu plus. « Cependant, » fit Obnotskine, surveillant avec inquiétude la porte entr'ouverte, « il me semble qu'à un certain point de vue, jugez vous-même, Yegor Ilitch, votre conduite chez moi. Enfin, je vous salue et vous ne daignez même pas me voir, Yegor Ilitch. » « Votre conduite chez moi fut une vilaine conduite, monsieur, » répondit mon oncle en regardant sévèrement Obnotskine. « Et ici, vous n'êtes pas chez vous. Vous avez entendu? Tatiana Ivanovna ne désire pas rester ici une minute de plus. Que vous faut-il encore? Pas un mot, entendez-vous? Pas un mot de plus, je vous en prie. Je désire éviter toute explication complémentaire, et ce sera d'ailleurs beaucoup plus avantageux pour vous. » Mais Obnotskine perdit courage à un tel point qu'il se mit à lâcher les bêtises les plus inattendues. « Ne me méprisez pas, Yegor Ilitch, » dit-il à voix basse et pleurant presque de honte, mais se retournant sans cesse vers la porte, comme s'il eût craint qu'on l'entendît. « Ce n'est pas ma faute, c'est maman. Je ne l'ai pas fait par intérêt, Yegor Ilitch. Je l'ai fait... tout simplement... Bien sûr, je l'ai aussi fait par intérêt, mais dans un noble but, Yegor Ilitch. J'aurais employé ce capital d'une façon utile. J'aurais fait du bien, monsieur. Je voulais aider au progrès de l'instruction publique, et je songeais à fonder une bourse dans une faculté. Voilà à quel emploi je destinais ma fortune, Yegor Ilitch. Ce n'était pas pour autre chose, Yegor Ilitch. » Nous sentîmes tous la confusion nous envahir. Midinchikov lui-même rougit et se détourna, et le trouble de mon oncle fut tel qu'il ne savait plus que dire. « Allons, allons, assez, assez » balbutia-t-il enfin. « Calme-toi, Paul Semyonovitch. Qu'y faire? Si tu veux, viens dîner, mon ami. Je suis très content, très content. » Mais M. Bakcheyev agit tout autrement.
« Créer une bourse ? » rugit-il furieusement. « Cela t'irait bien de créer des bourses. Tu serais surtout fort heureux de chiper celle que tu pourrais. Tu n'as pas seulement de culotte et tu te mêles de créer des bourses ? Chiffonnier, va ! Tu t'imaginais subjuguer ce tendre cœur ? Mais où donc est-elle, ton espèce de mère ? Se serait-elle cachée ? Je parie qu'elle n'est guère loin. Derrière le paravent ! À moins qu'elle ne se soit fourrée sous son lit de venette.
Stéphane, Stéphane ! Cria mon oncle.
Obnotskine rougit et voulut protester, mais avant qu'il eût eu le temps d'ouvrir la bouche, la porte s'ouvrit, et, rouge de colère, les yeux dardant des éclairs, Anfissa Petrovna en personne fit irruption dans la pièce.
Qu'est-ce que cela signifie ? Cria-t-elle. « Qu'est-ce qu'il se passe ici, Yegor Ilitch ? Vous vous introduisez avec votre bande dans une maison respectable, vous effrayez les dames, vous commandez en maître. De quoi ça a-t-il l'air ? J'ai encore toute ma raison, grâce à Dieu. Et toi, lourdeau,
continua-t-elle en se tournant vers son fils. « Tu as donc baissé pavillon devant eux? On insulte ta mère dans ta maison et tu restes là, bouche bée? Tu fais un joli coco. Tu n'es plus un homme. Tu n'es qu'une chif. » Il ne s'agissait plus de délicatesse, ni de manière distinguée, ni de maniement de face à main, comme la veille. Anfissa Petrovna ne se ressemblait plus. C'était une véritable furie, une furie qui avait jeté son masque de grâce. Dès que mon oncle l'aperçut, il prit Tatiana sous le bras et se dirigea vers la porte. Mais Anfissa Petrovna lui barra le chemin. « Vous ne sortirez pas ainsi, Yegor Ilitch, » reprit-elle. « De quel droit emmenez-vous Tatiana Ivanovna par force? Il vous contrarie qu'elle ait échappé au vil calcul que vous aviez manigancé avec votre mère et l'idiot Foma Fomitch? C'est vous qui vouliez vous marier par intérêt. Excusez-nous, monsieur, si nous avons ici des idées plus nobles. C'est en voyant ce qui se tramait contre elle que Tatiana Ivanovna se confia d'elle-même à Pavloucha pour s'arracher à sa perte, car elle l'a supplié de la tirer de vos filets, et c'est pour cela qu'elle dut s'enfuir nuitamment de chez vous. Voilà, monsieur, comment vous l'avez poussée à bout. N'est-il pas vrai, Tatiana Ivanovna? Alors, comment osez-vous faire irruption dans une noble et respectable maison, à la tête d'une bande, et faire violence à une digne demoiselle, malgré ses cris et ses larmes? Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Je ne suis pas folle. Tatiana restera parce qu'elle le veut ainsi. Allons, Tatiana Ivanovna, ne les écoutez pas. Ce sont vos ennemis. Ce ne sont pas vos amis. N'ayez pas peur. Venez, et je vais les mettre sur le champ à la porte. « Non, non !» cria Tatiana avec effroi. « Je ne veux pas, je ne veux pas. Il n'est pas mon mari. Je ne veux pas épouser votre fils. Il n'est pas mon mari. »
« Vous ne voulez pas ?»
glapit Anfissa Petrovna, étouffant de colère.
« Vous ne voulez pas? Vous êtes venu jusqu'ici et vous ne voulez pas? Mais alors, comment avez-vous osé nous tromper ainsi? Alors, comment avez-vous osé lui promettre votre main et vous sauver de nuit avec lui? Vous vous êtes jeté à sa tête et vous nous avez engagés dans la dépense et dans les ennuis. Et il se pourrait qu'à cause de vous, mon fils perdît un beau parti. » Des dots de plusieurs dizaines de mille roubles. Non, mademoiselle, vous paierez cela. Vous devez le payer. Nous avons des preuves. Vous vous êtes enfuie avec lui la nuit.
Mais nous n'écoutions plus cette tirade. D'un commun accord, nous nous groupâmes autour de mon oncle et nous avançâmes vers le perron en marchant droit sur Anfissa Petrovna. La calèche avança.
« Il n'y a que de malhonnêtes gens qui soient capables d'une pareille conduite. Tas de lâches !»
criait Anfissa Petrovna du haut du perron. Elle était hors d'elle.
« Je vais porter plainte, Tatiana Ivanovna. Vous allez dans une maison infâme. Vous ne pouvez pas épouser Yegor Ilitch. Il entretient sous vos yeux cette institutrice. »
Mon oncle tressaillit, pâlit, se mordit les lèvres et courut installer Tatiana Ivanovna dans la voiture. Je fis le tour de la calèche, et le pied sur le marchepied, j'attendais le moment de monter. Quand Obnotskine surgit tout à coup près de moi, il me saisit la main.
« Au moins, ne me retirez pas votre amitié !»
dit-il en la serrant fortement. Son visage avait une expression désespérée.
« Mon amitié ? »
fis-je en mettant le pied sur le marchepied.
« Mais voyons, monsieur !» Hier encore, je reconnus en vous l'homme supérieurement instruit. Ne me condamnez pas. C'est ma mère qui m'a induit en tentation. Mais je n'ai aucune responsabilité là-dedans. J'aurais plutôt le goût de la littérature. Je vous assure que c'est ma mère qui a tout fait.
Eh bien, répondis-je, je vous crois. Adieu. Nous partîmes au galop, poursuivis longtemps encore par les cris et les malédictions d'Anfissa Petrovna. Cependant que toutes les fenêtres de la maison se garnissaient subitement de visages inconnus qui nous regardaient avec une curiosité sauvage. Nous étions cinq dans la calèche. Mizinchikov était monté sur le siège, à côté du cocher, pour laisser sa place à M. Bakcheyev, qui se trouvait maintenant en face de Tatiana Ivanovna. Elle était très contente que nous l'emmenions, mais continuait à pleurer. Mon oncle la consolait de son mieux. Il était triste et pensif. On voyait que les infamies vomies par Anfissa Petrovna sur le compte de Nastenka l'avaient péniblement affecté. Cependant, notre retour se fut effectué sans encombre, sans la présence de M. Bakcheyev. Assis vis-à-vis de Tatiana Ivanovna, il se trouvait assez mal à l'aise et ne pouvait garder son sang-froid. Il ne tenait pas en place, rougissait, roulait des yeux farouches, et quand mon oncle entreprenait de consoler Tatiana, le gros homme, positivement hors de lui, grognait comme un bouledogue qu'on taquine. Mon oncle lui jetait des coups d'œil inquiets. Enfin, devant ces extraordinaires manifestations de l'état d'âme de son vis-à-vis, Tatiana Ivanovna se prit à l'examiner avec attention. Puis elle nous regarda, sourit, et soudain, du manche de son ombrelle, elle frappa légèrement l'épaule de M. Bakcheyev. « Insensé !» dit-elle avec le plus charmant enjouement, et elle se cacha aussitôt derrière son éventail. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. «
Quoi ? » rugit-il. « Qu'est-ce à dire, madame ? Alors, c'est sur moi que tout va retomber maintenant ?»«
Insensé ! Insensé !» répétait Tatiana Ivanovna, éclatant de rire et battant des mains.
« Arrête !» cria Bakcheyev au cocher. « Halte !»
On s'arrêta. Bakcheyev ouvrit la portière et sortit en hâte de la voiture.
« Mais qu'as-tu donc, Stéphane Alexievitch ? Où vas-tu ? »
criait mon oncle stupéfait.
« Non, j'en ai assez !»
clamait le gros père, tout tremblant d'indignation.
« Que le diable vous emporte ! Je suis trop vieux, madame, pour qu'on me fasse des avances. Je préfère encore mourir sur la grand route. »
Et, ajoutant en français, « Bonjour, madame, comment vous portez-vous ? » Il s'en fut à pied, en effet. La calèche le suivait. À la fin, mon oncle perdit patience et s'écria «
Stéphane Alexievitch, ne fais pas l'imbécile, en voilà assez. Monte donc, il est temps de rentrer. »«
Laissez-moi !» répliqua Stéphane Alexievitch tout haletant, car son embonpoint le gênait pour marcher.
« Au galop !» ordonna Mizinchikov au cocher. « Que dis-tu ? Que dis-tu ? Arrête !»
voulut crier mon oncle. Mais la calèche était déjà lancée. Mizinchikov avait calculé juste, et il obtint tout de suite le résultat qu'il avait escompté.
« Halte ! Halte !» cria derrière nous une voix désespérée. « Arrête, scélérat ! Arrête, misérable !»
Le gros homme parut enfin, brisé de fatigue, respirant à peine. D'innombrables gouttes de sueur perlaient à son front. Il dénoua sa cravate et retira sa casquette. Très sombre, il monta dans la voiture sans souffler mot. Cette fois, je lui cédai ma place, de façon qu'au moins il ne se trouvât pas en face de Tatiana Ivanovna, qui, pendant toute cette scène, n'avait cessé de se tordre de rire et de battre des mains. Elle ne put plus le regarder de sang-froid de tout le reste du voyage. Mais, jusqu'à ce qu'on fût arrivé à la maison, il ne dit pas un mot et garda les yeux fixés sur la roue de derrière. Il était midi quand nous réintégrâmes Stepan Chikovo. Je me rendis directement au pavillon, et tout aussitôt, je vis apparaître Gavrilo avec le thé. J'allais le questionner, mais mon oncle entra derrière lui et le renvoya. 2. Nouvelles. « Mon ami, me dit-il précipitamment, je ne viens que pour un instant. Il me tarde de te communiquer. Je me suis informé. Personne de la maison n'a été à la messe, excepté Ilusha, Sacha et Nastenka. Il paraîtrait que ma mère serait tombée en attaque de nerfs et qu'on aurait eu grand-peine à la faire reprendre ses sens. Il est décidé que l'on va se réunir chez Foma et on me prie de m'y rendre. Je ne sais seulement si je dois ou non lui souhaiter sa fête à Foma, et c'est là un point important. Enfin, je me demande l'effet qu'aura produit toute cette histoire. Serge, j'ai le pressentiment que cela va être affreux.
Au contraire, mon oncle,
me hâtai-je de lui répondre. Tout s'arrange admirablement. Il vous est dès à présent impossible d'épouser Tatiana Ivanovna. Ce serait monstrueux. Je voulais vous l'expliquer en voiture. Oui, oui, mon ami, mais ce n'est pas tout. Dans tout cela, on voit clairement apparaître le doigt de Dieu. Mais je veux parler d'autre chose. Pauvre Tatiana Ivanovna, quelle aventure! Quel misérable que cet Obnotskin! Je l'appelle misérable, et j'étais tout prêt à en faire tout autant que lui en épousant Tatiana Ivanovna. Bon, ce n'est pas ce que je voulais te dire. As-tu entendu ce que criait ce matin cette malheureuse Anfissa Petrovna au sujet de Nastia? Je l'ai entendu, mon oncle. J'espère que vous avez enfin compris qu'il faut vous presser. Absolument. Je dois précipiter les choses à tout prix, répondit mon oncle. Le moment solennel est arrivé. Mais voici, mon ami, il est une chose que nous n'avons pas envisagée hier, et cette nuit je n'en ai pas fermé l'œil. Consentira-t-elle à m'épouser? De grâce, mon oncle, puisqu'elle vous dit qu'elle vous aime. Mon ami, elle ajoute aussitôt, mais je ne vous épouserai pour rien au monde. Eh, mon oncle, on dit cela, mais les circonstances ont changé aujourd'hui même. Tu crois? Non, mon cher Serge, c'est délicat, très délicat. Croirais-tu pourtant que, malgré mes ennuis, mon cœur m'en faisait souffrir de bonheur? Allons, au revoir, il faut que je m'en aille, on m'attend, et je suis déjà en retard. Je ne voulais que te dire un mot en passant. Ah, mon Dieu! S'écria-t-il en revenant sur ses pas. J'oublie le principal. Voilà, j'ai écrit à Foma. Quand donc? Cette nuit. Il faisait à peine jour ce matin quand je lui fis porter ma lettre par Vidopliassov. En deux feuilles, je lui ai tout raconté très sincèrement. En un mot, je lui dis que je dois absolument demander la main de Nastenka. Comprends-tu? Je le supplie de ne pas ébruiter notre rendez-vous dans le jardin, et je fais appel à sa générosité pour intercéder auprès de ma mère. Sans doute j'écris fort mal, mon ami, mais cela, je l'ai écrit du fond de mon cœur, en arrosant le papier de mes larmes. Et qu'a-t-il répondu? Il ne m'a pas encore répondu, mais ce matin, comme nous allions partir, je l'ai rencontré dans le vestibule, en vêtements de nuit, pantoufles et bonnet, car il ne peut dormir qu'avec un bonnet de coton. Il allait vers le jardin, et il ne me dit pas un mot, ne me regarda même pas. Je le regardais en face, moi, et du haut en bas, mais rien. Mon oncle, ne comptez pas sur lui. Il ne vous fera que des misères. Non, non, mon ami, ne dis pas cela, criait mon oncle avec de grands gestes. J'ai confiance. D'ailleurs, c'est mon dernier espoir. Il saura comprendre. Il saura apprécier les circonstances. Il est hargneux, capricieux, je ne dis pas le contraire. Mais quand il s'agira de générosité, il brillera comme un diamant. Oui, comme un diamant. Tu en parles comme tu le fais, parce que tu ne l'as jamais vu dans ces moments de générosité. Mais, mon Dieu, s'il allait parler de ce qu'il a vu hier, alors, vois-tu, Serge, je ne sais ce qu'il pourrait arriver. À qui se fier, alors? Non, il est incapable d'une pareille lâcheté. Je ne vaux pas la semelle de ses bottes. « Ne hoche pas la tête, mon ami, c'est la pure vérité, je ne la vaux pas. »«
Yegor Ilitch, votre maman désire vous voir. »
Glapit d'en bas la voix désagréable de la Perepelitsina. Elle avait certainement eu le temps d'entendre toute notre conversation par la fenêtre.
« On vous cherche vainement dans toute la maison. »«
Mon Dieu, me voilà en retard, quel ennui !» fit précipitamment mon oncle. « De grâce, mon ami, habille-toi. Je n'étais venu que pour te demander de m'y accompagner. »«
J'y vais, Ananilovna, j'y vais. »
Resté seul, je me rappelais ma rencontre avec Nastenka et je me félicitais de ne pas en avoir parlé à mon oncle. Cela n'aurait servi qu'à le troubler davantage. Je prévoyais un orage. Et n'imaginez point comment mon oncle parviendrait à se tirer d'affaire et à faire sa demande à Nastenka. Je le répète, en dépit de ma foi en sa loyauté, je ne pouvais m'empêcher de douter du succès. Cependant, il fallait se hâter. Je me considérais comme obligé de l'aider et me mis aussitôt à ma toilette. Mais j'avais beau me dépêcher, je ne faisais que perdre du temps. Mizinchikov entra. « Je viens vous chercher, » dit-il. « Yegor Ilitch vous demande tout de suite. »«
Allons. »
J'étais prêt, nous partîmes. Chemin faisant, je lui demandais « Quoi de neuf ?»«
Ils sont tous au grand complet chez Foma, qui ne boude pas aujourd'hui. »
Mais il semble absorbé et marmotte entre ses dents. Il a même embrassé Ilusha, ce qui a ravi Yegor Ilitch. Préalablement, il avait fait dire par la Perepelidzina qu'il ne désirait pas qu'on lui souhaitât sa fête, et n'en avait parlé que pour éprouver votre oncle. La vieille respire des sels, mais elle s'est calmée, parce que Foma est calme. On ne parle pas plus de notre aventure de ce matin que s'il n'était rien arrivé. On se tait parce que Foma se tait. De toute la matinée, il n'a voulu recevoir qui que ce fût, et ne s'est pas dérangé. Bien que la vieille l'ait fait supplier au nom de tous les saints de venir la voir, parce qu'elle avait à le consulter. Elle a même frappé en personne à sa porte, mais il est resté enfermé, répondant qu'il priait pour l'humanité, ou quelque chose d'approchant. Il doit mijoter un mauvais coup, cela se voit à sa figure. Mais Yegor Ilitch est incapable de lire sur ce visage, et il se félicite de la douceur de Foma Fomitch. C'est un véritable enfant. Ilusha a préparé je ne sais quel verre, et on m'envoie vous chercher. Et Tatiana Ivanovna?
Eh bien,
est-ce qu'elle est avec eux?
Non, elle est dans sa chambre, répondit sèchement Mizinchikov. Elle se repose et pleure. Peut-être est-elle honteuse. Je crois que cette institutrice lui tient compagnie en ce moment.
Tiens, qu'est-ce donc? On dirait qu'il s'amasse un orage. Voyez-moi donc ce ciel.
En effet, répondis-je, je crois bien que c'est l'orage.
Un nuage montait qui noircissait tout un coin de ciel. Nous étions arrivés à la terrasse.
Eh bien, que pensez-vous d'Obnotskine, hein? Continuai-je, ne pouvant me retenir de questionner Mizinchikov sur cette aventure.
« Ne m'en parlez pas, ne me parlez plus de ce misérable !» cria-t-il en s'arrêtant subitement, rouge de colère. Il frappa du pied.
« Imbécile ! Imbécile ! Gâter une affaire aussi bonne, une pensée si lumineuse ! Écoutez, je ne suis qu'un âne de n'avoir pas surveillé ces manigances. Je l'avoue franchement, et peut-être désiriez-vous cet aveu. Mais je vous le jure, s'il avait su jouer son jeu, je lui aurais sans doute pardonné. Le sot, le sot. Comment peut-on souffrir des êtres pareils dans une société? Il faudrait les exiler en Sibérie, les mettre aux travaux forcés. Mais ils n'auront pas le dernier mot. J'ai encore un moyen à ma disposition, et nous verrons bien qui l'emportera. J'ai conçu quelque chose de nouveau. Convenez qu'il serait absurde de renoncer à une idée parce qu'un imbécile vous l'a volée et n'a pas su l'employer. Ce serait trop injuste. Et puis, cette Tatiana est faite pour se marier. C'est sa destinée. Et si on ne l'a pas encore enfermée dans une maison de santé, c'est qu'on peut l'épouser. Vous allez connaître mon nouveau projet.
Oui, mais plus tard, interrompis-je. Nous voici arrivés.
« Bien, bien, plus tard, » répondit-il, la bouche tordue par un sourire convulsif.
« Mais où allez-vous donc? Je vous dis, tout droit chez Foma Fomitch. Suivez-moi. Vous ne connaissez pas encore le chemin. Vous allez en voir une comédie. Ça prend une vraie tournure de comédie. »
3. La fête d'Ilusha. Foma occupait de grandes et belles pièces, les mieux meublées de la maison. Le grand homme était entouré de confort. La tapisserie fraîche et claire, les rideaux en soie de couleur qui garnissaient les fenêtres, les tapis, la psyché, la cheminée, les meubles élégants et commodes, tout témoignait des soins attentifs que lui prodiguaient les maîtres de la maison. Les fenêtres étaient garnies de fleurs, et il y en avait aussi sur des guéridons placés dans les embrasures. Au milieu du cabinet de travail s'étalait une grande table recouverte de draps rouges
chargée de livres, de manuscrits, au milieu desquels se détachait un superbe encrier de bronze et un tas de plumes, commis aux soins de Vido Pliassov, le tout destiné à témoigner de l'importance des travaux intellectuels de Foma Fomitch. À ce propos, je dirais qu'après 8 ans environ passés dans cette maison, Foma n'avait rien produit qui méritât mention. Et plus tard, quand il eut quitté cette terre pour un monde meilleur, nous examinâmes ses manuscrits, le tout ne valait rien. Nous trouvâmes le commencement d'un roman historique se passant au 7e siècle à Novgorod, un monstrueux poème en vers blanc. L'anachorète au cimetière, ramassis de divagations insensées sur la propriété rurale, l'importance du moujik et la façon de le traiter. Et enfin, une nouvelle mondaine, également inachevée, la comtesse Flonskaya. C'était tout. Et cependant, Foma Fomitch imposait chaque année à mon oncle une énorme dépense en livres et revues, dont beaucoup furent retrouvés intacts. Par la suite, il m'était souvent arrivé de surprendre notre Foma plongé dans la lecture d'un Paul de Kock, aussitôt dissimulé. Une porte vitrée donnait du cabinet de travail dans la cour. On nous attendait. Foma Fomitch était assis dans un confortable fauteuil, toujours sans cravate, mais vêtu d'une longue redingote qui lui descendait jusqu'au talon. Il était en effet silencieux et absorbé. Quand nous entrâmes, il releva légèrement les sourcils et me regarda d'un œil scrutateur. Je le saluai, il me répondit par un salut peu marqué, mais néanmoins fort poli. Ma grand-mère, voyant que Foma m'avait témoigné de la bienveillance, m'adressa un signe de tête et un sourire. La pauvre femme ne s'était nullement attendue à voir son favori accueillir avec autant de calme la fugue de Tatiana Ivanovna, et cela l'avait rendue très gaie, malgré ses crises de nerfs et ses faiblesses du matin. La demoiselle Perepelidzina se trouvait derrière sa chaise, à son poste ordinaire. Les lèvres pincées, souriante avec une aigre malice, elle frottait ses mains osseuses. Près de la générale étaient 2 vieilles et silencieuses personnes qu'elle protégeait comme étant de bonne famille. Il y avait aussi une religieuse en tournée, arrivée du matin, et une dame du voisinage, fort âgée et ne parlant guère, qui était venue après la messe pour souhaiter la fête de la générale. Ma tante, Praskrovia Ilinichna, se morfondait dans un coin tout en considérant Foma Fomitch et sa mère avec une évidente inquiétude. Mon oncle était assis dans un fauteuil. Une joie intense brillait dans ses yeux. Devant lui se tenait Ilusha, jolie comme un amour avec ses cheveux frisés et sa blouse de fête en soie rouge. Sacha et Nastenka lui avaient appris des vers en cachette, pour que le plaisir de son père, en ce jour, fût encore augmenté par les progrès de son fils. L'oncle était prêt à pleurer de bonheur. La douceur inattendue de Foma, la gaieté de la générale, la fête d'Ilusha, les vers, tout cela l'avait absolument réjoui, et il avait solennellement demandé l'autorisation de m'envoyer chercher, afin que j'entendisse les vers et que je prisse ma part de la satisfaction générale. Sacha et Nastenka, entrées après nous, s'étaient assises à côté d'Ilusha. Sacha riait à chaque instant, heureuse comme une enfant, et, bien que pâle et languissante, Nastenka finissait par sourire de la voir. Seule, elle avait été accueillir Tatiana au retour de son expédition, et ne l'avait plus quitté depuis ce moment. L'espiègle Ilusha regardait ces 2 institutrices comme s'il n'eût pu se retenir de rire. Ils devaient avoir tous 3 préparé une très amusante plaisanterie qu'ils s'apprêtaient à mettre en œuvre. J'avais complètement oublié Bakcheyev. Assis sur une chaise, toujours rouge et fâché, il ne soufflait mot et boudait, se mouchait, dressant une silhouette lugubre au milieu de cette fête de famille. et Jevikin s'empressait auprès de lui. Il était d'ailleurs aux petits soins pour tout le monde, baiser les mains de la générale et de son hôtesse, chuchoter quelques mots à l'oreille de mademoiselle Perepelizina, faisait sa cour à Foma Fomitch. En un mot, il se multipliait. Tout en attendant les vers d'Ilusha, il se précipita à ma rencontre avec force salutations en témoignage de son estime et de son dévouement. On ne l'eût guère cru venu à Stepanchikovo pour prendre la défense de sa fille et l'emmener définitivement.
« Le voilà !» s'écria joyeusement mon oncle à ma vue.
« Ilusha m'a fait la surprise d'apprendre une poésie. Oui, c'est une véritable surprise. J'en suis très émue, mon ami, et je t'ai envoyé chercher tout exprès. Assieds-toi à côté de moi et écoutons. Foma Fomitch, mon cher, avoue donc que c'est toi qui leur a inspiré cette idée pour me faire plaisir. J'en jurerai. » Du moment que mon oncle s'exprimait ainsi et sur un pareil ton, on pouvait supposer que tout allait bien. Mais comme l'avait dit Mizinchikov, le malheur était mon oncle ne savait pas déchiffrer les physionomies. À l'aspect de Foma, je compris que l'ancien hussard avait eu le coup d'œil juste et qu'il fallait en effet s'attendre à quelques coups de théâtre. « Ne faites pas attention à moi, colonel, » répondit-il d'une voix débile, d'une voix d'homme qui pardonne à ses ennemis. « Je ne puis que louer cette surprise qui prouve la sensibilité et la sagesse de vos enfants. Les vers sont fort utiles, ne fût-ce que pour l'exercice d'articulation qu'ils comportent. Mais ce matin, colonel, je ne me préoccupais pas de poésie. J'étais tout à mes prières, vous le savez. Je n'en suis pas moins prêt à écouter ces vers. » Pendant ce temps, j'embrassais Ilusha et lui faisais mes souhaits. « C'est juste, Foma, » reprit mon oncle. « J'avais oublié, mais je t'en demande pardon, tout en étant très sûr de ton amitié, Foma. Embrasse-le donc encore une fois, Seryoja, et regarde-moi ce gamin. Allons, commence, Ilusha. De quoi s'agit-il? Ce doit être une ode solennelle de Lomonosov, sans doute. » Et mon oncle se redressait, ne pouvant tenir en place, tant il était impatient et joyeux. « Non, petit père, ce n'est pas de Lomonosov, » dit Sakenka, contenant à peine son hilarité. « Mais comme vous êtes un ancien soldat et que vous avez combattu les ennemis, Ilusha a appris une poésie militaire. Le siège de Pamba, petit père. »«
Le siège de Pamba? Ah, je ne me rappelle pas ce qu'était cette Pamba. Connais-tu ça, Seryoja? Sûrement, il a dû se passer là quelque chose d'héroïque. »
Et mon oncle se redressa encore. « Récite, Ilusha !» ordonna Sakenka. Ilusha commença sa récitation d'une voix grêle, claire et égale, sans s'arrêter au point ni aux virgules, suivant la coutume des enfants qui débitent des poésies apprises par cœur. Depuis 9 ans, Pedro Gomez assiège le château de Pamba, ne se nourrissant que de lait, et toute l'armée de Don Pedro, au nombre de 9000 Castillans, obéit aux vœux prononcés, ne mange même pas de pain et ne boit que du lait.
« Comment? Qu'est-ce? Qu'est-ce que ce lait ?»
s'exclama mon oncle en me regardant avec étonnement.
« Continue à réciter, » fit Sakenka.
Chaque jour, Don Pedro Gomez déplore son impuissance en se voilant la face. Déjà commence la 10e année et les méchants morts triomphent, car de l'armée de Don Pedro, il ne reste plus que 19 hommes.
« Mais ce sont des sottises !»
s'écria mon oncle avec inquiétude.
« C'est impossible! Il ne reste que 19 hommes de toute une armée auparavant très considérable. Qu'est-ce que cela, mon ami ?»
Mais Sacha n'y tint plus et partit d'un franc éclat de rire de gamine. Et bien que la pièce n'eût rien de bien drôle, il était impossible de la regarder sans partager son hilarité.
« C'est une poésie comique, papa !»
s'écria-t-elle, toute joyeuse de son idée enfantine. « L'auteur ne l'a composée que pour faire rire, papa !»